I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Sylvain Larocque, bienvenue.
Ça va?
Ça va très bien, ouais.
Ah oui.
Et je demande à tout le monde, comment est-ce que tu as rentré dans l'humour? Parce que j'attendais, toi, je te connaissais, ça fait longtemps, je connais qui, mais la première fois que je t'avais vu, c'était au Comedy Nest. Alors, tu étais une des personnes qui faisait les deux, que j'ai vu en deux langues, mm-hmm. que ça m'impressionne. Alors, c'est comment que tu as commencé ça?
C'est une longue histoire. As-tu du temps? On a combien de temps?
Oh, on a du temps, on a du temps.
Moi, j'ai fait... j'étais bon à l'école. Moi, fait que j'étais... après le cégep, j'étais à McGill. J'ai fait 2 ans et demi d'un bac en chimie. Je me suis écœuré. C'était la vie sociale. C'était le Sahara de la socialité. C'était plate. Après ça, j'ai été en HEC. J'ai fait un bac en marketing pour faire de la pub.
Oh!
Mais pendant que j'étais au HEC, je suis retourné chez mes parents l'été pour travailler. C'est le job d'étudiant. Puis... j'ai eu, en revenant de la job, on était chez un chum, prendre une bière un soir, une bière, là, puis on a fumé un joint, puis tu sais, t'es relax, mais tu sais, j'ai pris mon scooter pour venir chez nous. J'ai dit une moto d'habitude, mais c'était un scooter, c'est moins viril. C'était un scooter, puis j'ai frappé un camion d'huile face à face. Vraiment, comme j'étais un mois à l'hôpital. Je ferais, tu sais, 2 arrêts cardiaques le premier soir, 8 côtes de cassé, l'intestin ouvert, la rate a éclaté. Ce qui est bizarre parce que je dilate la rate des gens maintenant, mais ma rate a éclaté. Puis après ça, j'ai comme eu une épiphanie, si on veut. Tu sais, des fois, l'être humain avance plus à coups de pied dans le cul qu'à tape dans le dos. Mais j'ai eu mon coup de pied dans le cul. Puis j'ai comme pris conscience du fait qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui préfèrent un malheur qui est familier à un bonheur potentiel qui implique un risque pour y arriver, tu sais.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui chialent contre leur travail, leur couple, mais qui restent là.
Ouais, ouais.
Parce que c'est familier. Puis on se vautre et puis on se complaît dans la familiarité. Et j'ai décidé de ne pas vivre de même. J'ai juste décidé de ne pas avoir de j'aurais dondu à 75 ans. Tu sais. Ça fait que j'ai toujours aimé l'humour. Donc j'ai commencé à écrire du stand-up. Mais tu sais, j'avais aucune idée.
Mais c'était-tu avec l'intention d'aller sur la scène ou juste pour toi?
Certain, okay. Mais c'était un rêve, tu sais. J'y croyais plus ou moins, tu sais pas, c'est tellement gros. Tu sais, quand tu vois ça, quand t'es pas dedans, c'est énorme.
Ouais, ouais.
Tu sais, tu penses que les humoristes sont inspirés par une lumière qui descend du ciel. T'sais. Non, ça va être inspiré par des toilettes d'un truck stop ou n'importe quoi. Là,
n'importe quoi,
tu penses que ces gens-là, les artistes, ont une espèce de communication avec le divin. Là, là.
Ouais.
Mais non, je me suis mis à prendre des notes, à écrire des esprits d'affaires. Puis, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de shows en français que tu pouvais faire. Là.
À Montréal?
En 91, là, il y avait les lundis juste pour rire. Il y avait des shows d'Agobert à Québec. Puis, il y avait une autre place à Sherbrooke qui s'appelait Marche du Palais, à 3 spots. Là. Et si tu n'avais pas fait l'école d'humour, personne ne voulait t'engager parce qu'il ne savait pas de t'es qui. Fait que fallait auditionner. J'ai auditionné 3 fois pour faire les lundis juste pour rire. J'ai fini par le faire. J'ai fait mon numéro, mais après ça, j'avais pas d'autres gigs, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, bon, OK. J'étais étudiant, puis là, à un moment donné, j'avais de gazette, puis je travaillais comme gardien de nuit d'un édifice à Montréal la nuit, puis j'ai reçu de la gazette un matin, puis il y avait, dans la section art, un article, ça disait, « So you wanna be a stand-up comedian? » Puis ça disait qu'il donnait des workshops au Comedy Nest, et puis qu'au Comedy Works, il y avait des lundis amateurs où n'importe qui pouvait monter sur scène.
Ouais, ouais.
Puis moi, je pensais que j'étais bilingue à l'époque, parce que je parlais anglais, tu comprends? Mais en faisant du stand-up, je me suis rendu compte que je n'étais pas bilingue. Parce qu'à un moment donné, le bilinguisme vient quand tu apprends à penser dans l'autre langue.
Oui.
Tu comprends? Et là, la nuance. Les gens qui ne font que traduire au fur et à mesure leur pensée francophone en anglais ne sont pas encore tout à fait bilingues, tu sais. Mais le stand-up m'a fait passer over the edge. Puis donc, c'était une langue que je ne maîtrisais pas complètement. Mais je voulais tellement faire des shows que j'ai appelé au Comedy Works un dimanche pour avoir un spot de 5 minutes, Amateur Night, Open Mic Night, lundi. Et puis ça, c'est une histoire que j'ai compté déjà, mais pas en podcast, je l'ai déjà compté à Mike, entre autres, Mike Ward. Puis je suis arrivé le lundi, et puis l'animateur s'appelait Alistair McAllister à l'époque. Il est rendu à Ottawa maintenant, il travaille pour York, je pense. Et puis moi, j'étais là, j'étais nerveux, man. J'avais ma petite liste de jokes poche. Parce que c'est ton premier stand-up.
Ouais,
c'est toujours de la merde, mais tu trouves ça bon, toi. Et là, j'étais là, puis j'attendais, je passais genre 8e, tu sais. Puis comme il était rendu à 6 humoristes, Alistair McAllister vient me voir et dit, Sylvain, you're going to have to wait a bit because this guy just walked in and wants to do a set right now. So you're going to have to go on after him.
Ok, t'es pompé.
Je m'en foutais. Je me disais, bon, après un ou après l'autre, tu sais. Sauf que the guy who walked in was Norm MacDonald.
Non!
I swear to God.
Non, c'est bon!
Fait que là, il y a Norm MacDonald qui est sur scène, puis, hey, so I'm, my dog, and oh my car, and oh my God, and he killed. Il a complètement, il a tout arraché. Il était on the way up. Là. Un an après, il a animé le Weekend Update à Saturday Night Live. Là. Il venait d'Ottawa, lui, finalement.
Ouais, ouais.
Il était vraiment on the rise. Là. Et après ça, j'ai fait mon numéro, man. I died a slow, painful, lingering death.
Oh, non.
Mais j'ai pas eu d'érection pendant 6 mois après ce numéro-là. Si j'étais à terre. Mais j'ai continué, tu sais. Puis j'ai continué en anglais. Puis après ça, l'année d'après, j'ai fait l'école d'humour. Puis là, j'ai commencé à faire du français aussi plus. Fait que après ça, ça s'est buildé over time. Mais c'est ça, c'est de même que j'ai commencé. Puis après ça, ben à force de travailler au Comedy Works, tu sais, j'ai une place pour essayer le nouveau matériel. Puis après ça, je le traduis en français. Tu sais, c'est le contraire d'un francophone normal.
C'est ça que je veux dire, ouais.
Normalement, un francophone prendrait son stock français et le traduirait en anglais. Mais moi, vu que je l'essayais en anglais en premier, je le retraduisais dans ma langue après.
Puis est-ce que tu trouvais des choses en français, t'es comme, ah... Oh. J'aurais dit ça en anglais aussi, ça marchait.
Ouais, il y a des jokes qui marchaient, mais il y a beaucoup de trucs. Si ça joue un peu sur les doubles sens des mots ou si c'est trop des référents culturels.
Ça te traduit.
Quand je faisais de l'anglais, moi, il y a plusieurs choses que. C'était important pour moi en faisant de l'anglais de jamais faire rire parce que j'étais francophone.
Ah, OK.
Tu sais, je voulais me battre sur le même terrain que les gens qui étaient avec. Tu sais, on dit me battre parce qu'au début, tu es très compétitif, tu veux faire ta place. Mais je voulais être sur le même terrain. Je voulais pas être avoir du succès parce que j'étais le francophone qui...
Puis tu parles mal.
Là-dessus. Ouais, c'est ça.
Ouais, exact. Moi aussi, je suis comme ça. C'est pour ça que j'essaie, quand je fais ça en français, de parler en français.
Exactement.
Parle en anglais. Non. Je comprends le français. Je parle juste un accent. Je veux que les mots soient en français.
Parce que, tu sais, je voyais aussi beaucoup... Il y avait beaucoup de... Tu sais, en anglais, ce que j'aime du stand-up anglo... Comparé au stand-up franco, et je critique pas, j'ai bien des chums dans franco, puis je les aime, là, mais en anglo, you really have to pay your dues before you become someone, tu sais.
Oh, yeah. Si, spécialement?
Terrain, si t'as pas fait les shows de marde, puis le terrain, puis tu t'es pas pété à gueule 100 fois, personne ne va te respecter, tu sais. Puis il y a des critères de respect différents, puis moi, le respect de mes pères est super important.
Ouais,
quasiment plus important que le respect du public, tu sais.
Ouais.
Fait que jamais j'aurais pris le fait que je suis francophone pour faire rire avec ça, parce que je voyais souvent... Que tu sais, des gens qui sont d'une autre communauté culturelle, qui faisaient rien que des jokes sur leur communauté culturelle, les autres humoristes faisaient comme « Ah, nice guy, but I got anything else to say.
Ouais. »
Ouais.
On sait que tu es italien, continue.
Tu continues, ouais. Tu peux-tu dire d'autres choses? Tu as une opinion sur la société, la politique, sur n'importe quoi, mais parle-nous d'autres choses. Ça fait que, donc j'ai vraiment évolué comme ça. Puis vu que mon propos était quand même assez basé sur la nature humaine, et c'était topical aussi, je pouvais en parler dans les deux langues. Fait que ça me permettait de builder d'un côté comme de l'autre. Fait que j'ai fait des tournées un peu partout au Canada. Puis voilà, ça, tranquillement, j'ai fait mes classes comme ça.
Wow! Ça, c'est toi, tu as vécu quelque chose que moi, je dois décrire à des humoristes francophones. Ils ne savent pas le heartache qui existe sur la scène anglaise. Toi, tu as commencé avec ça. Alors toi, tu sais comment c'est difficile, c'est dur... Ça fait puis mal des fois.
J'ai commencé avec des préjugés. Je ne sais pas si c'était dur à masser en tant qu'humoriste amateur ou presque à Fort McMurray dans le nord de l'Alberta devant des gars qui, premièrement, ne sont pas là pour voir le show. Parce que à l'époque, OK, une des façons où j'ai compris ça, à l'époque, une des façons d'avoir un permis d'alcool en Alberta, c'est de présenter une heure de show live par semaine.
Oh.
Ils bookaient des humoristes, tu comprends, mais ils s'en calissaient. Je veux dire, ils ne faisaient pas de pub, ils mettaient un micro dans le coin. Say whatever you want, you know, we just want our liquor license. Fait que personne, c'était un cauchemar, là. C'était un cauchemar. Mais j'ai vécu ça. Puis aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me fait peur, tu comprends?
Tu sais quoi? J'ai appris beaucoup parce que moi, j'avais toutes ces shows de bar, les télés sans lumière, regarde Loki, ils s'en foutent, toi, ils crient dessus, ils font des heckles. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, ils m'ont booké. Tu sais, rien, tout le monde crie, parle. J'ai fait plein de shows comme ça.
Oui.
Ah, ça fait mal. Au début, ça fait mal.
Ça fait mal, mais il faut passer par là.
Ouais.
Et puis, c'est pour ça que des fois, tu sais, au Montreal Show, j'ai fait le Montreal Show hier.
Extérieur, ouais.
Mais à l'époque, le Montreal Show, c'était plus industrie. C'était plus, moi, je l'ai fait 6 fois dans les années 90. C'était vraiment, sais, il y avait des agents américains qui étaient là, qui venaient voir des talents francophones, des talents montréalais, anglophones. C'était vraiment cool. Moi, c'est de même, j'ai eu mon épisode de comics, c'est de même, j'ai eu une couple d'affaires, le fun qui sont sortis de ça, tu sais. Mais il fallait, tu sais, s'il y avait quelqu'un qui arrivait out of nowhere, mettons du côté francophone, t'es une vedette en français, puis il voulait essayer de faire de l'anglais, mais là, son agent, il essaye d'avoir le Montreal Show right away. Tous les autres humoristes backstage, c'est comme...
c'est passé, ouais.
Fucker. Il dit, qu'est-ce qu'il fait, là?
Il arrive, il y a encore.
He hasn't paid his dues. You know, he doesn't deserve to be there. Parce que tout le monde avait, s'était battu, d'intranché, à faire des tournées, à faire des heures de route, éviter les chevreuils dans le nord de l'Ontario, pour faire des shows, tu sais. Fait que c'est ça.
C'est un autre monde. Les deux scènes sont complètement différentes.
Complètement différentes, parce qu'au Canada anglais, t'as pas de star system.
Non, puis à Montréal, t'as même pas d'opportunité de carrière. Au moins à Toronto, tu peux écrire pour quelqu'un. Ouais. Ici, on fait pas des productions.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais même au Canada anglais, c'est difficile pour les humoristes. C'est parce que je pense que le meilleur humoriste au Canada va se promener dans les rues de Toronto, je sais pas, puis il est pas reconnu par les gens.
Non, t'sais. Pas du tout.
Pas du tout, là.
Non, non.
Je sais pas c'est qui le top, là, tu sais, là, je te dis des gars que j'aime, comme Derek Edwards, mettons, là, qui est freaking drôle. Je pense pas que Derek se fait reconnaître dans la rue.
Moi, je te dis que vraiment, Mike va se faire reconnaître.
Mike, OK.
Plus en anglais que n'importe qui ouais. fait en anglais.
Ben voilà, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a une bonne base en français, puis ça l'a propulsé aussi.
Ouais.
C'est comme il y a un appui ferme, il y a une bonne fondation. Mais Mike, il est drôle dans toutes les langues, là, c'est pas ça. Un problème. Là, c'est l'homme, ce gars-là, on a commencé à peu près en même temps. J'ai connu Mike dans le temps, il faisait des shows en français, mais il faisait 8 minutes. Mais tu sais, il mettait tous ses meilleurs jokes dans les 8 minutes. Fait que dans le premier joke, il était marié. Dans le troisième, il était célibataire. Dans le quatrième, il était divorcé. Dans le cinquième, il avait deux enfants. Tu sais, il n'y avait pas de fil conducteur. Il y a juste des bons gags, tu sais, puis il est compacté. C'est très drôle.
Puis lui, es-tu quelqu'un, Mike, es-tu quelqu'un qui t'avais beaucoup de comme connexion avec pendant tes premières années?
Ben oui, beaucoup parce que.
Tu faisais partie de ton entourage?
On fait souvent des tournées en français surtout.
Ouais, hein?
Moi, je faisais beaucoup d'anglais, Mike un peu moins dans le temps. Puis après ça, moi, en 2001, j'ai sorti mon premier one-man show francophone. J'ai commencé à aller en France aussi. Fait que j'ai été moins... j'avais bien des contrats d'écriture. Fait que j'ai eu moins de temps de faire de l'anglais. Fait que l'anglais, j'en faisais, mais tu sais, pour me garder présent puis actif. Mais j'investissais plus dans une carrière anglophone au Canada. J'ai recommencé il y a 2 ans, vraiment, à m'y remettre, là.
Puis comment est-ce que t'aimes ça?
J'adore ça.
Ouais.
Hier, j'étais backstage avec Joey Elias puis Heidi Foss. Il y avait des gens avec qui j'ai
Deux
commencé.
Deux légendes sur la scène anglaise, ouais.
J'ai commencé avec eux il y a 30 ans, tu sais. Puis j'étais comme, I was back home.
Ouais.
Tu sais, c'était écœurant. J'ai fait des tournées avec Joey. Ça a été mon roommate, tu sais. J'ai fait des tournées avec, Feu David John McCarthy, David Acker, Barry Julian. On partait, c'est l'Ontario. Tu sais, c'était le fun. C'est des beaux moments, moi. C'est des moments que j'ai appris tellement. Tellement qu'ils vont toujours rester gravés. Là.
Pour moi, c'est... je les aime tous, mais pour moi, David Pride, il était toujours pour moi...
Ah,
il est... Puis lui, c'est un gars, j'utilise comme exemple la qualité de qu'est-ce qu'il fait, puis comment il écrit, puis comment il est connu, et deux choses complètement incompréhensibles.
Ouais.
Je ne peux pas comprendre comment ce gars-là n'est pas plus grand de qu'est-ce qu'il...
Ben moi j'adore ce qu'il fait, j'adore David, moi, je l'ai présenté une couple de fois récemment, on faisait un show Laughing on the Outside, ça s'appelle,
okay.
Avec le Comedy Nest, c'était au Jardin Mont-Royal.
Oh ouais, mais, qui ouais. était oh ouais, ouais, ouais j'ai vu des photos.
Puis on se présentait l'un l'autre, tu te présentais tout le temps, le prochain, il n'y a pas d'MC, l'humoriste présentait le prochain, puis je le présentais David comme un des meilleurs talents montréalais d'être sorti dans les 20 dernières années.
C'est comme ça que moi je l'ai présenté, ça fait 2 semaines au Comedy
c'est
Nest.
C'est peut-être juste qu'il n'est pas... Il n'est pas assez charismatique, peut-être. Il n'est peut-être pas assez
agressif. Ouais.
C'est un bon gars. Ouais. Il veut pas pour être un humoriste, pas pour être un bon humoriste, pour être un humoriste qui avance dans le métier, il faut que tu aies une petite dose d'égocentrisme.
Oui, parce que tu
pas exagéré,
pousser.
Mais
non, pas exagéré, mais
toi.
Tu dois pousser un peu.
Exactement. Puis ouais. Dave, je pense pas qu'il fait ça, malheureusement. Parce que, écoute, c'est un gars qui a énorme... Moi, quand j'ai voulu revenir il y a 2 ans, j'avais 3 one-man shows à traduire en anglais, là, tu sais. Fait que j'étais voir David, puis j'ai dit, veux-tu m'aider? Puis tout de suite, il a dit oui, puis c'est un gars que j'adore.
Ouais, moi aussi. Puis quand je suis avec lui backstage, c'est le gars que j'aime parler le plus.
Ouais.
De voir son opinion sur quelque chose, puis lui, il voit un autre angle tout le temps, puis il dit quelque chose, puis t'es comme, oh shit, j'ai pas pensé à ça. Puis il est juste tout, vraiment gentil, comme c'est une bonne personne.
Il est gêné.
Ouais.
Il est timide. Ouais, il devrait être fier, mais il est timide, tu sais. Mais il y a cette pensée divergente qui est essentielle à la créativité, tu sais. Ça, tu l'as ou tu l'as pas, je veux dire. Tu sais, être drôle ou être humoriste, c'est, il y a une portion qui est innée.
Ouais.
Que tu nais avec, puis c'est ça. C'est la façon, c'est l'angle, c'est ton angle que tu as depuis que tu es jeune, mais que tu sais pas, à un moment donné, tu le développes en t'en servant, puis en écrivant beaucoup. Mais David, il l'a toujours eu, puis il l'a bien développé. Maintenant, j'aimerais ça qu'il soit plus front, qu'il soit un petit peu plus agressif, tu sais. Mais ça, peut-être ça le dénaturerait.
Peut-être, oui, tu sais, lui a besoin d'un gérant agressif,
ouais,
pour faire tout
exactement,
pour lui.
Exactement, exactement. Ouais. Qui va être agressif et qui va le protéger en même temps, parce que tu sais, il dirait oui à tout parce qu'il est gentil, tu sais.
Ouais, lui il dirait oui. Puis toi, t'es pas agressif, mais toi tu prends soin de toi puis ta carrière. Puis j'ai entendu dire que tu te lances en politique.
Ouais, ben c'est ça, c'est une affaire que j'ai réalisé.
C'est-tu vrai ou c'est une rumeur? C'est vrai?
Vrai,
c'est OK,
vrai.
On a parlé de ça.
Oui. Ben, politique municipale, pas grand-chose.
Still, c'est quelque chose?
C'est cet hiver. Moi, j'ai été chanceux cet hiver parce que je suis auteur en plus d'être humoriste. Fait que j'ai pas mal de contrats d'écriture. Fait que durant le COVID, mon revenu a beaucoup baissé, mais je me maintenais quand même. J'étais un des chanceux parce que j'ai des contrats d'écriture, des shows virtuels. Fait que je m'en tirais bien quand même. Sauf que j'ai réalisé que, tu sais, j'ai pas de blonde ces temps-ci, puis j'ai pas d'enfant.
OK.
Puis j'étais chez nous, puis j'ai réalisé que, tu sais, j'avais pas d'inspiration du nouveau stand-up, là. J'ai développé des concepts télé que j'avais en banque, tout ça, pour qu'ils soient prêts à présenter. Mais du nouveau stand-up, j'en avais pas, puis je me demandais pourquoi. Mais on écrit ce qu'on vit. Moi, mon stand-up, là, tu sais, tu te rappelles des vieux diagrammes novennes
ouais.
Au secondaire? Moi, là, ma vie personnelle, puis ma vie de stand-up, là, la zone d'intersection, yeah. C'est ça.
Alors, quand c'est...
Fait que quand
ça n'existe pas?
Quand il n'y a pas beaucoup d'action dans ma vie personnelle, le stand-up fait ça de même. Oui, cet hiver, j'ai écrit 400 jokes de chien. Parce que j'étais avec mon chien toute la journée. J'ai décœuré d'écrire des jokes de chien, tu sais, tu comprends? Fait que là, j'ai fait, OK, il faut que je vive de quoi? Je ne peux pas être enfermé chez nous puis vivre rien, là. Là, je me suis dit, OK, je vais faire du bénévolat, m'a servi à quelque chose. Et, bon, la députée de mon comté, la députée provinciale, Catherine Fournier, qui est passée du PQ à l'indépendance, est devenue indépendante, a décidé de se présenter à la mairie de Longueuil. Puis c'est une amie à moi. Donc, à un moment donné, j'ai fait comme, ben, crime, peut-être que je pourrais y aider à créer des speeches. J'ai jamais écrit de speech pour les politiciens, ça serait cool.
Ouais.
Je peux la puncher, puis je peux
ouais.
Du fun, là, tu sais. Fait que je l'appelle, je dis, hey, t'as-tu besoin d'aide? Elle dit, ben oui, certain, ce serait le fun. J'ai fait une couple de meetings de com, m'amusais. Après ça, elle me dit, Sylvain, on va aller prendre un café, je voudrais te parler. Je dis, OK, on va y aller. Elle prend un café, ben, elle m'a dit, j'aimerais ça que tu te présentes comme conseiller municipal dans le district Saint-Charles, qui est un des beaux districts de Longueuil, quand même, là, tu sais. C'est là où Mike habite, où moi j'habite aussi. C'est un bel
c'est
endroit.
C'est beau là-bas, ouais.
Mais j'aime Longueuil en général, mais ce district-là particulièrement, c'est chez nous, tu sais. Fait que là, j'ai fait, sur le coup, j'ai fait, non, mais à ta peu, là. Tu sais, ce ne sera pas un job à temps plein, là. Je vais m'investir, c'est sûr, mais ça va être un 15-20 heures semaine. Fait que j'ai pas d'enfant, je peux continuer ma carrière de stand-up sans problème. Et puis ça va me nourrir.
Oh, tu vas avoir plein de choses à
dire. Ah, man, ces temps-ci, je fais des faits saillants de porte-à-porte. Je fais du porte-à-porte.
Alors, tu rencontres tout le monde.
Ah, ben c'est drôle de faire du porte-à-porte parce que quand il y a pas la madame, ouf, monsieur Larocque, qu'est-ce que vous faites là? C'est comme, ben là, je me présente parce que, ah oui. Fait que les gens sont super gentils. J'ai des belles réactions spontanées quand le monde va voir leur porte, ne se tente pas à ça, tu sais.
Un instant, Sylvain Larocque est à la porte.
Ouais, personne
va les croire, ouais.
Il y en a qui font comme, ben non, qu'est-ce que vous faites là? Je me présente comme conseiller municipal. Ah, 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 ben non, c'est vrai. Ah, vous êtes drôle. Mais non, c'est vrai. Il ne croit pas, tu sais. C'est vraiment weird, mais c'est, les gens l'accueillent bien, puis c'est le fun. Fait que ça, que je gagne ou que je ne gagne pas l'élection, j'ai l'intention de gagner, mais que je gagne ou que je ne gagne pas, l'expérience de vie est full intéressante. Et puis, moi, je suis quelqu'un de. Tu sais, quand tu fais un show devant un public de 500 personnes, ils n'ont pas de visage. Tu sais, c'est un groupe de gens. Je suis assez timide en. Personne face-to-face, moi. Tu sais, j'ai toujours peur que, dans la vie de tous les jours, on n'est pas tout le temps en train de faire des jokes. Mais quand le monde vient de me voir à l'épicerie, comme, hey, monsieur Larocque, j'ai peur qu'ils s'attendent à ce que je sois tout le temps en train de puncher. Fait que, tu sais, j'essaie d'être un peu plus discret, puis dans mon coin, je veux pas les décevoir, tu sais. Mais là, ça me force à sortir de ma zone de confort. Et puis c'est ça qui est enrichissant. Parce que je gagne ou pas, l'expérience de vie va être incroyable. Me sortir de là une meilleure personne, tu sais.
Tu vas sortir de là avec une heure.
Ah oui, c'est sûr.
C'est sûr.
C'est clair. Mais aussi, je veux travailler dans ma communauté pour faire de quoi? Faire de quoi de fun? J'ai plein d'idées. Tu sais, quand t'es un créateur, c'est un geyser, là, c'est un geyser. Ça part dans tous les sens, tes idées. Tu sais, puis autant j'ai des idées de joke que j'ai des idées d'invention. J'ai des idées pour la communauté, j'ai des idées. Fait que pour moi, c'est. Tu sais, à force d'avancer dans ce métier-là, les humoristes touchent tellement toutes sortes de strates que j'en suis venu à me considérer plus comme un marchand d'idées que comme un humoriste, des fois. Et puis ça, c'est juste une autre façon de faire passer mes idées et de les voir en application aussi. Ça, c'est intéressant. Fait que voilà, c'est la politique, c'est ça.
Mais moi, j'aime ça quand les humoristes rentrent dans la politique. Parce que. Comme tu viens de dire, je pense qu'on a plein d'idées, puis on touche sur plein de sujets, on a vécu plein de choses. Puis habituellement, les politiciens que je connais, c'est des gens qui n'ont pas vraiment vécu une vraie vie.
Ben c'est ça. Le gars, il est étudiant en sciences politiques, puis il a fait de la politique toute sa vie, mais as-tu une autre façon de contribuer à la société autre que celle-là? As-tu vécu comme le gars qui est camionneur, puis le gars qui est mécanicien, puis le gars qui est comédien ou le gars.
Est-ce que tu sais, c'est quoi quand t'as pas assez pour le loyer dans deux semaines? Est-ce que tu sais, c'est quoi ça?
Ben, comme... c'est ça. Fait que, tu sais, s'il le sait pas, déjà, ben, il va le savoir quand je vais gagner, tu sais. Parce que. Parce qu'il va falloir qu'il se trouve un job de mécanicien, de camionneur, quelque chose, tu sais.
Mais.
Non, je fais des farces, là, mais.
Non, mais toi, je pense que t'as des fortes chances.
Tu sais, c'est comme d'étudier. Quand tu vas à l'université, mettons que t'étudies. Dans un domaine bien précis qui te permet juste d'enseigner après. Tu comprends?
Ouais.
T'as pas vraiment vécu d'autre chose. T'as fait un doctorat en histoire sur la Mésopotamie. Ouais. Et puis là, tu peux pas rien faire avec ça sauf enseigner à d'autres mondes l'histoire de la Mésopotamie. Mais ben, les sciences politiques, c'est ça. Tu fais les sciences politiques, c'est bon. Après ça, tu peux conseiller un politicien ou te présenter, mais c'est fermé. Il y a rien d'autre, tu sais.
Ouais.
Voilà. Je pense qu'on a besoin de gens qui ont plus... des expériences plus larges.
Puis les gens qui n'ont pas peur de dire la vérité.
Ouais, ça, des fois, je me dis moi-même, ta gueule. Mais, d'ailleurs, je vais l'appeler de même mon prochain show, ta gueule, la rock.
Oh, ta gueule, la rock, ça, c'est bon.
Je trouve ça bon comme titre de show, ta gueule, la rock. Je pense que ça va être ça, mon prochain titre de show. Mais tu sais, en vieillissant, je suis moins pété. Étant jeune, je suis très arrogant, très baveux. Je me tempère en vieillissant.
Honnêtement, c'est bon d'avoir des politiciens comme ça. Parce que tu ne veux pas avoir des gens trop timides que tu n'es pas sûr qu'ils vont faire la job bien parce qu'ils vont avoir trop peur de dire la vérité à les gens autour d'eux. Tu as besoin de quelqu'un qui est comme « Non, 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 c'est comme ça que ça doit aller. On va faire le bon chose pour le monde. »
Ben moi, en tout cas, regarde, c'est pas parce que c'est moi, mais j'aurais plus confiance dans un gars qui va faire la job, mais qui ne dépend pas de ça pour vivre.
Ouais, bien sûr.
Ma vie avec l'humour, moi, tu sais. Parce que s'il veut être là, c'est parce qu'il veut vraiment faire la job.
Ouais.
Puis il veut pas sauver le chou puis le chef, puis garder son emploi, fait, rendre des services. Pas, t'sais, non, moi, c'est comme, je veux faire une job, c'est pour ça que je suis là. Puis je veux la faire pour vrai. Puis les allégeances, puis les politiqueries, puis je viens pas de ce domaine-là. Moi, t'sais, j'ai une approche différente, puis je vais le vivre différemment aussi. Je veux travailler avec le monde. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la tournée, puis je suis avec le monde. J'ai envie de les écouter, puis j'ai envie de prendre ces idées-là. Et j'ai l'idée, 2000 brainstorms dans ma vie, là. T'sais, que ce soit pour la ville ou pour un nouveau show de Laurent Paquin, il va dire, c'est correct, là, je vais être capable de canaliser cette énergie-là et d'en faire quelque chose de positif.
Moi, je viens de penser à un scénario où tu rentres dans le bureau le matin, puis il y a quelqu'un qui dit, « Hey, Sylvain, j'ai catché ton show hier soir. Le con au bureau, c'est-tu moi? »
Oui.
Oui, c'est toi, Patrick. Ferme ta gueule.
Et là, ben, regarde.
Parle-toi.
Regarde, une affaire, et ça, c'est vraiment arrivé, OK? Je faisais du porte-à-porte il y a deux semaines. J'arrive à une porte, puis il y a une femme qui ouvre, puis elle discute, tout ça. Et puis on jase, hein, ça va bien, oui, tout ça. Je parle un peu de nos idées pour le district, tout ça. Puis à la fin, je dis, en tout cas, est-ce qu'on peut compter sur votre support aux prochaines élections? Elle dit, bien, certain, Sylvain, j'ai déjà voté pour toi. Mais non, ça se peut pas. C'est la première fois que je me présente. Elle dit non, j'ai voté pour toi cet hiver sur Tinder. Et là, je OK. Merci. Et là, je me dis dans ma tête, je l'ai-tu swipé à gauche ou à droite, je me souviens plus.
Mais évidemment, à gauche.
Mais tu sais, il y a un paquet d'affaires. Et c'est sûr que dans ma vie, il y a des périodes. Et moi, je suis ce que je suis, puis je n'ai rien à cacher non plus, tu sais. J'ai eu du fun, puis je l'ai mis d'ailleurs sur ma page de candidat. C'est un épisode de fun, tu sais.
Ça, c'est drôle,
ouais. Je vis des affaires au porte-à-porte des fois que je mets, des faits saillants de porte-à-porte. Là, je trouve ça bien drôle.
Puis est-ce que tu... J'aime ça que tu penses à beaucoup de choses, puis tu t'impliques dans plein de choses différentes. Est-ce que tu as des idées pour ta carrière, on va dire, OK, dans 10 ans, j'espère avoir ça, ça, ça fait, ou est-ce que tu prends vraiment, c'est plus court terme?
Ben moi, non, je pense à long terme, mais, là, j'ai 54 ans. Je ne prendrai jamais ma retraite, je le sais, mais mon but, là, je suis en train d'écrire quelques pièces de théâtre que j'aimerais faire tourner pendant des années. J'en ai déjà écrit une qui a très bien marché. On a vendu plus que 100 000 billets au Québec, là. C'est beaucoup pour du théâtre, là.
Oh, wow!
Et en 2008-2009, là, j'en écris d'autres.
Est-ce que tu écris juste ou est-ce que tu es une des comédiens qui
sont là? J'ai joué dedans aussi, celle-là.
Okay.
J'ai joué dedans aussi. J'ai joué dans deux pièces de théâtre, en fait, au Québec. Celle-là, qui s'appelait Mars et Vénus, et puis Ladies Night aussi, qui a tourné beaucoup, beaucoup.
Fait oh, ça, c'est cool!
Ouais. Ben, je suis comédien aussi un peu à mes heures, là, parce que j'ai écrit une série télé, là. Je suis en train de développer un jeu télévisé. Et puis, je me suis développé une conférence aussi, que je trouve bien intéressante, parce que moi, tu sais, j'ai fait un bac en management.
OK.
OK. Puis j'ai beaucoup travaillé en entreprise. Je veux dire, au début, je travaillais pour IBM dans le jour. Je faisais des shows le soir. Fait qu'à un moment donné, j'ai lâché ma job. J'avais assez de shows, mais j'ai fait ça. Puis des corporate shows, j'en ai fait des centaines à travers le Canada. Tu sais, quand tu es un des seuls humoristes bilingues, tu as souvent des contrats de même. Et puis, customiser l'événement pour le. Tu sais, j'ai fait plein d'affaires de même. Et j'ai gagné plein de trophées d'auteur humoristique. Puis j'ai enseigné l'écriture stand-up. Puis là, j'ai pris tout ça, je me suis bâti une conférence sur l'utilisation de l'humour dans le milieu organisationnel comme outil et comme arme. C'est-à-dire que comment une organisation peut se servir de l'humour pour cimenter ses relations, cimenter l'esprit d'équipe, augmenter le networking, cimenter aussi avec les relations avec les fournisseurs, les clients. Je pars du principe de base que le rire partagé, c'est une complicité instantanée.
Oui.
Et c'est une confiance instantanée aussi, parce qu'il y a un partage de l'âme là-dedans. Donc, si tu peux réussir à générer ça dans ton environnement de travail, tout prend une coche. Tu sais, si tu es un fabricant de chaises, tu fais affaire avec deux fournisseurs de coussins de qualité égale, prix égal, tu vas faire affaire avec celui qui est le plus fun.
Ouais.
Tout le temps. Ouais. Fait que tu sais, donc j'enseigne ça aux entreprises, ça fonctionne bien, c'est une belle conférence, puis j'ai toutes les compétences. Moi, ce que j'ai fait dans ma vie boils down to that. Fait que ça, je l'ai fait pas mal avant le COVID, puis je vais recommencer à le faire. Puis ça, c'est quelque chose que tu peux faire jusqu'à 80 ans, tu comprends?
Ouais, ouais, puis ça, c'est cool.
Ouais.
Tu mets toutes tes expériences.
Exactement. J'ai trouvé une façon de tout rassembler ça ensemble. Ouais.
Ça, c'est... Puis la radio, t'as-tu fait de la radio?
J'en ai fait de la radio, pas assez, j'aurais aimé ça.
Oui, parce que j'aime, comme t'es fascinant à écouter.
Ben merci, c'est gentil. Mais j'en ai fait... l'année que j'en ai fait le plus, c'est un été, j'animais le show du midi à C'est quoi avec Stéphane Fallu. Mais en 2007, genre, tu sais. Puis on avait les meilleurs codes d'écoute de la station dans le temps, mais il n'y a jamais personne qui est venu nous reproposer de le refaire après. J'ai trouvé ça, j'étais déçu. Parce que moi, c'est un médium que j'aime, la radio. J'ai une bonne voix, ça a l'air aussi. Ça fait que puis j'ai de quoi dire, tu sais. J'aurais aimé ça en faire plus. Ça n'a pas donné, pas encore du moins.
C'est pour ça que les podcasts existent.
Ah oui, ben oui. Ouais. C'est vrai, t'as raison.
T'as-tu pensé à ça?
De faire un podcast?
Ouais.
Mais là, je vais en faire un, c'est la politique municipale pour la campagne qui va commencer. Je vais inviter des autres candidats de mon parti puis discuter des enjeux de la ville. Fait que je vais commencer de même. C'est petit, c'est à Longueuil, ouais. Pour les citoyens de Longueuil. Puis si j'y prends goût, ben, je suis en train de me monter un studio dans le sous-sol, puis je vais y prendre goût. Après ça, je vais peut-être aller ailleurs avec ça.
Crois-moi.
Ouais, je pense
ouais,
que...
Ouais, ouais, si ça me tu vas avoir le studio dans le sous-sol, ça va commencer avec les candidats puis la politique, puis après ça va... Le rock mais, show.
Mais, mon ami Laurent Paquin, qui en sort un aussi, là, il vient de l'annoncer. Là. Un podcast de Laurent.
Laurent Paquin, je viens de voir ses petites vidéos qu'il fait maintenant pour le festival comme un cuisinier. Tu sais, comme...
Oh, ouais, c'est drôle.
Oh, c'est drôle, man. Parce que je ne le connaissais pas avant, puis je commençais à regarder
Laurent,
les vidéos.
Laurent, moi, ça fait des années que je travaille avec.
Il me fait rire, lui. J'aime son attitude.
J'ai écrit presque tous ses shows avec lui, puis il a écrit presque tous mes shows avec moi aussi.
Il a l'air d'un bon gars. Il a l'air
mais c'est vraiment un bon gars. C'est vraiment. Puis là, c'est plate parce qu'il faut que je le roast la semaine prochaine. Et puis, ça fait comme 5 fois que je le roast. Puis là, il faut que j'en fasse un autre, mais pour la télé. Et là, tu sais, je l'aime, j'ai plus de vacherie à dire. Je n'ai dit qu'il est dans quatre roasts. Là, il là, faut que j'aille chercher. Faut que je pète la gueule, j'aurais pas le choix. Je suis rendu là.
Mais c'est plus facile de roaster les gens que t'aimes.
Ouais, oui, mais quand c'est la cinquième fois que tu vois des affaires différentes sur quelqu'un que t'aimes, à un moment donné, là, c'est comme...
Tu te sens juste avec des photos discrètes.
Oui, c'est ça. C'est des affaires que personne veut savoir.
Oui, oui. Ouais. J'en ai rien d'autre, c'est juste ça.
C'est juste ça. Ben, non, Laurent, c'est un gars super créatif. C'est, lui aussi, c'est un de mes voisins. Il reste pas loin de chez nous. D'ailleurs, tantôt, il faut que j'appelle Mike puis Laurent pour lui demander, je peux-tu mettre une pancarte devant chez vous avec mon nom dessus? Je ne sais pas s'ils vont dire oui, mais moi, je le fais après-midi.
Qu'est-ce qu'ils vont dire?
Je ne sais pas. Tu sais, c'est... Mais je n'ai pas le choix de le demander. Moi, ça me prend des pancartes. Il faut montrer qu'on est présent, tout ça. C'est une job que j'aime pas faire, demander ça à des chums, tu sais, mais ça fait partie de la game en politique.
Tu perds rien en les demandant. Puis
je sais bien. Tu sais, j'aime quand même pas ça, demander ça. Tu sais.
Ouais, non, je te comprends.
Mais je vais le faire.
C'est comme une imposition.
Non. Ben, je veux qu'ils se sentent libres de dire non. Je vais leur en vouloir toute ma vie, mais non, pas vrai, pas tout.
Ouais, tu me donnes un regard.
Je peux pas leur en vouloir. Tu sais, je les aime, ces gars-là, mais tu sais, j'aimerais ça qu'ils disent oui, ça serait cool. Là,
tu sais. Puis est-ce que maintenant, parce que tu rentres un peu puis tu te fais pour fun, est-ce que tu penses, après que les choses retournent un peu plus vers le normal, que tu peux faire des shows extérieurs de Montréal en anglais puis continuer un peu les deux?
Pourquoi pas?
Ouais, hein? T'es-tu intéressé à faire ça?
Ah ben oui, c'est sûr.
Ok, ça c'est...
Moi, je suis humoriste, là. Je fais dans la vie. Je veux m'impliquer en politique municipale, puis je veux faire ce qu'il y a à faire dans mon district, je veux mettre l'énergie nécessaire. Mais je ne prendrai pas de mandat additionnel à ça. T'sais, quand tu es conseiller municipal, tu peux faire ta job, puis la faire comme il faut, ouais. Mais tu peux aussi t'embarquer dans des comités consultatifs à gauche, à droite, puis t'occuper à temps plus que plein, là. Ça, je ne ferai pas ça. Je vais rester dans mon district, travailler mon monde. C'est ça que je veux faire.
Puis tu vas avoir le temps de faire tes... Ouais.
Mes stand-up, mon humour, mon écriture, etc.
Puis... Quand tu avais commencé, puis tu faisais ça, puis tu voyais les gens, comme quand tu avais vu Norm Macdonald au début, puis il partait, est-ce qu'une pensée t'a rentré dans la tête de peut-être essayer d'aller aux États-Unis?
Non, jamais.
Jamais, hein?
Jamais, parce que à Montréal, quand tu fais du français puis de l'anglais, t'es à la porte de la France puis du Canada anglais, ouais. Tu peux éventuellement amener aux États-Unis. Je suis vraiment en bonne place, là. À Montréal, je peux pas être à meilleure place que ça pour... Le confluent des deux cultures. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, quand j'ai pensé, peut-être je pourrais aller aux États-Unis essayer, mais j'étais rendu à 35-40 ans, j'avais une maison, une hypothèque, à recommencer à 25 piastres du set des Amateur Nights à New York, même pas 25, 0 piastres du set des Amateur Nights à New York, ouais, non.
Non, ça, juste je pense
à ça. À 20
ans,
tu fais ça.
Ouais, tu fais ça à
35-40, peut-être moins. C'est pas que ça m'aurait pas tenté, mais ça, je dis pas que j'irai jamais, mais ça va peut-être plus passer par l'écriture. Je sors une série télé qui est le fun, qui est exportable.
Tu vends ça, ouais.
Exactement. Ça pourrait être une façon de le faire.
Ouais, fuck, c'est cool.
J'ai fait
de
beaucoup d'adaptations, moi, tu sais, en français. Il y avait une série au Québec qui s'appelait Un gars, une fille dans les années 90, je sais pas si t'as connu.
Non.
C'est une grosse série, ça a duré 139 épisodes en tout. Puis c'est un des shows les plus écoutés au Québec. C'est « It was about relationships », l'histoire d'un couple avec Guy Lepage, justement, qui était l'auteur principal. Moi, j'ai écrit là-dessus. Puis en plus, Guy m'a demandé de faire l'adaptation anglaise de la série. Fait que j'ai tout pris, mais j'ai pas juste traduit, j'ai adapté. T'sais, s'il y avait une joke qui marchait juste au Québec, je la changeais, je proposais une autre qui allait marcher partout dans le monde, là, qui était plus générale. T'sais. Parce que ça prend un humoriste pour adapter de l'humour.
Ouais.
Pas demander à un traducteur qui va faire du verbatim.
Non, ça va être de la merde.
Et la version anglaise que j'ai faite de la série a été vendue dans, je pense, 30 à 35 pays.
Quoi?
Oui.
Ça, c'est impressionnant,
oui.
C'est vrai.
Oui. Ça fait que ça, je peux faire ça aussi. Je l'ai fait pour plusieurs autres affaires. T'sais. Je l'ai fait pour Corner Gas, la série de Brent Buck, Animated. C'est moi qui ai fait la version française pour le marché francophone.
Oh, je savais pas. Oh, ça, c'est
Laurent
cool.
Qui fait la job et la voix aussi.
C'est Laurent qui fait sa voix française. Oh.
Principal. Oui.
Ça, c'est cool.
Fait que c'est ça, j'en ai fait pas mal de ça. Donc, moi, je sors une série ici qui va bien. Facile pour moi de l'adapter puis de l'envoyer ailleurs.
Je savais même pas que j'apprends quelque chose de nouveau à chaque jour, je pense, sur Guy Lepage. Quel gars intéressant! Je savais pas qu'il faisait ça avant.
C'est un des gars qui m'a aidé le plus dans ma carrière.
Ouais, hein?
Je lui dois beaucoup. Il y a quelques... Tu sais, quand tu fais ce métier-là, il faut qu'il y ait quelques personnes qui te back en cours de route.
Ouais.
Mais Guy Lepage, c'est la personne qui m'a probablement le plus aidé.
C'est Mike et ce gars-là pour moi.
Ouais, ben voilà. Mike aussi m'a donné des coups de main. Puis j'en ai donné moins, mais il m'en a donné, lui, des corner gas, je l'ai eu à cause de Mike.
Ah oh, ouais?
Parce que je pense que c'est Bruce Hills de Just for Laughs qui l'avait appelé. Puis il disait, Brent Butts looking for someone to help him adapt the show. Puis,
en français.
Mike a suggéré moi, puis c'est de même que j'ai eu le contrat. Ouais, je connaissais Brent, déjà, il m'avait déjà vu, fait que ça allait bien, mais quand même, tu sais, on se passe des pas quand chum. Pis,
ouais, il a fait ça pour moi plein de fois, Mike aussi. Il ouais. dit, non, j'ai un gars pour toi, Pantelis peut faire ça.
Moi, dans les années 90, je l'ai fait, j'ai référé un gig pour les employés du Costco.
À Mike?
Je pense que ça a bien été, mais tu sais, c'est comme, je faisais comme, il va peut-être être un peu hard, mais tu sais, on sait pas, peut-être qu'il va aimer ça. Je pense que ça a bien été. J'ai référé une couple d'affaires, mais c'est surtout Mike m'a beaucoup aidé aussi. Mais tu sais, je te dis, la personne qui était vraiment un parrain, puis quelqu'un qui m'a backé tout le long, et puis qui avait rien en tiré, il l'a fait juste parce qu'il croyait, c'est Guillaume Lepage.
Ouais. Hein?
Vraiment, vraiment.
J'attends plein de choses sur lui, parce que je le connais pas, je l'ai vu une fois, je l'ai rencontré aux Olivier.
C'est un gars brillant, puis c'est un performeur, puis c'est un gars de cœur aussi. T'sais.
Ouais, hein? Ouais. Cool. Et c'est cool qu'on a ces personnes-là ici.
Ben oui. Ben oui, c'est sûr. On en a tous besoin, je pense.
Ouais. Puis c'est difficile parce que je regarde d'autres scènes, il n'y en a pas vraiment ça. Nous, ici, il y a plein de personnes qui... C'est comme si ils font partie de ta famille. Mm. Puis on s'entraide. Je sais pas, sur la scène francophone, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose que j'avais jamais vu avant. Je ne pouvais pas le vivre quelque part d'autre. Puis c'est fascinant.
Il y a beaucoup de relations de parrainage qui se développent en français, ça c'est vrai. Chose que tu vois un peu moins en anglais, sauf que même s'il n'y a pas de parrainage direct en anglais, il y a quand même, tu te fais des bons amis. Puis, oui. Tu sais, je trouve que la communauté d'humoristes anglophones est plus tight entre elles que la communauté d'humoristes francophones. Par contre, en français, tu as plus de relations. Ils ont peut-être moins de relations, moins d'amis profonds, mais des amitiés vont loin.
Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire.
Ouais, c'est un peu différent.
Ouais, parce que j'en ai...
C'est pas les mêmes struggles, parce qu'au Québec, t'as quand même un star system, t'as quand même un... Tu peux bien vivre de ton art au Québec si t'es bon, si tu travailles bien, tu sais. Je pense que en anglais, c'est plus des brothers in arms.
Ouais, ouais.
Parce que, tu sais, je sais pas si tu connais le groupe, vieux groupe Bowser and Blue.
Ouais, ouais.
Il était bien populaire dans les années 80, eux autres. Moi, je faisais pas d'humour dans le temps. Mais tu sais, j'ai fait des shows avec eux autres un peu vers la fin de leur carrière, moi, dans les années 90. Et puis à chaque fois que George Bowser, il me voyait, il dit « How you doing, Frenchie? » Je dis « I'm okay. You're doing good? You're surviving? » Je dis « Yeah, I'm surviving. » Il dit « Good, because in Canadian show business, survival is success. »
C'est vrai.
Et c'est vrai. Et ça, les humoristes anglophones au Canada ont ce struggle-là qu'ils partagent. Et puis, tu sais, l'ennemi commun qui est la pauvreté et l'échec dans le show business fait que ça les soude ensemble. Chose qui est moins présente en français. Donc, je pense que en français, on se crée des amitiés naturelles qui vont profondément avec des gens qu'on s'entend bien. Mais en anglais, que tu t'entendes bien ou pas à la base, on développe une relation parce qu'on se combat, on combat la même chose.
Il y a beaucoup de respect mutuel, ouais.
Exactement.
Ouais.
Les relations se développent différemment, je pense.
Tu as totalement raison.
Oui.
J'aime ça, ta perspective. Puis, Sylvain, on sait que ben, c'est la politique. Maintenant, tu veux, s'il y a des citoyens de Longueuil qui peuvent voter pour toi, ça, on pousse. Mais autre que ça, y a-tu quelque chose que tu veux que les gens font?
Pour me supporter, ben.
Ouais.
Oui, ils peuvent contribuer au parti. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai de la misère à demander ça. On fait du porte-à-porte, puis les gens sont souvent très enthousiaste. Ah, monsieur Larocque, je suis content. Et là, il faut qu'on leur offre. Ça vous tente de fournir des sous, parce que c'est pas pour moi, là, c'est pour le parti. Puis, il faut qu'on demande, parce que les gens peuvent juste donner, les gens de Longueuil peuvent donner 200 maximum.
OK.
T'sais, puis moi, je peux pas donner plus que 1000. Moi, j'ai déjà donné mon... Je suis obligé de demander à plein de monde, j'ai pas le choix, mon objectif, c'est 10 000. Fait que je demande à des gens, t'sais, mais j'aime pas ça, demander ça. Mais là, j'en parle ici. Fait que si vous m'entendez le dire là, quand je viens à votre porte, ben offrez-moi.
C'est-tu juste les citoyens Longueuil qui peuvent donner?
Oui, oui. Ouais. Mais les autres peuvent prendre une carte de membre, là, tu sais.
Ça aide aussi.
À 25 $, genre. Mais à Longueuil, surtout. Donc, il y a ça, puis les pancartes. Il faut que je place des pancartes. Je suis pas bon pour vendre ça. Je suis bon pour jaser avec le monde. Je suis bon pour avoir des bonnes idées, puis ils sont convaincus. Je pense qu'il y a bien du monde qui sont convaincus que je vais faire une bonne job, puis ils ont raison. Mais vendre des affaires de même, ça fait partie de la job de politicien que j'aime pas. Mais en quelque part, il faut que je réussisse à la faire. Parce que c'est ça qui va me faire grandir. Mais c'est ça qui va me faire grandir aussi. Ouais.
T'as pas, non, t'as pas le choix. Maintenant, t'es all-in.
Ah oui.
T'as mon support.
Merci.
C'est dommage que j'habite pas proche de vous, ouais, parce que
t'as mon support, c'est Mike après-midi. M'a appelé Mike.
Ouais, non, Mike va aider. Ouais, mais je veux vraiment te remercier d'être venu.
C'était... En plus, là, après ce podcast-là, Mike et Laurent vont aller être cheap s'ils n'ont pas de pancarte de moi devant chez eux.
T'as dit ça devant tout le monde, puis moi, je vais texter Mike.
Tout le monde l'a vu.
Moi, je vais texter Mike, je vais dire, what are you doing?
Il n'est pas demandé encore, il ne sait pas.
C'est vraiment ça. Mais merci, c'était un honneur.
Ah, mais merci, c'était un honneur pour moi, c'était un plaisir. Merci d'avoir pensé à moi pour l'invitation.